Bonjour à toutes et à tous, on va gentiment commencer le culte. Donc avant qu'on commence vraiment à rentrer dans ce temps de culte, on va parler de ce qui se passe aussi pendant le reste de la semaine pour l'église. Voilà, parce que l'église c'est pas juste le dimanche matin, donc j'invite Johan à venir nous parler de ça.
Bonjour à tous. Alors, pendant un petit quart d'heure, Paul Robert va nous parler. Mais il va dire l'essentiel.
Alors, j'attends. Quart d'heure commence. Qu'est-ce qu'un quart d'heure dans une vie? Et qu'est-ce que l'essentiel? C'est toute la vie, et même la vie d'après. Alors pour Pâques, pour que ce Pâques devienne quelque chose de peut-être de présent dans la vie des gens, un journal est édité, ça s'appelle « Quart d'heure pour l'essentiel », pour donner envie au plus grand nombre de découvrir ou redécouvrir la foi en Jésus-Christ, bien sûr. Alors l'Église évangélique de Mérin vous propose de participer, chacun de ses membres, donc vous, moi, à la distribution de ce journal autour de nous. Comment? Où? Eh bien voilà, ou à Mérin Village, on a déjà pensé, premièrement déjà là autour, et puis ou ailleurs, on en va en parler, ou avec sa famille, ses voisins et son entourage. Comment? Par une distribution gratuite et publique qui sera organisée à Mérin Village, notamment la place, la poste, la COP, l'arrêt de bus, etc., le samedi 1er avril, c'est encore un petit peu loin, mais enfin quand même, il faut s'y préparer, il faut réserver, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h. On peut aussi simplement faire une distribution personnelle, prendre des journaux, en prendre une dizaine, une vingtaine, et distribuer dans ses boîtes aux lettres, à ses voisins, dans sa famille, à ses collègues, etc. Il faut y aller, il faut oser, c'est Pâques, le Seigneur est ressuscité. Alors, à distribuer, bien sûr, tout cela avant Pâques. Pas avant Noël, hein, avant Pâques. Et puis, on peut aussi organiser une distribution publique ailleurs. Si quelqu'un a envie de distribuer quelque chose, je ne sais pas, moi, un collègue aussi, il peut prendre des journaux, aller sur la place et le distribuer. Ou ailleurs, ici à Mérin. Si on a beaucoup de monde qui s'inscrit, ce que j'espère, eh bien, on pourrait peut-être aller au verger en distribuer, ou ailleurs. Donc, vraiment, je vous encourage à répondre, oui, pas à moi, pas au journal, mais notre Seigneur qui nous envoie vers les autres. Pour l'inscription, pour cette distribution, notamment du 1er avril, il y a un panneau à la sortie, vous pouvez sans même mettre votre nom, si vous voulez mettre le matin, l'après-midi, 1h, 2h, enfin, c'est à vous de voir. Et les journaux, je vais aller les chercher cette semaine, ils seront à disposition dès le 19, dimanche prochain. Voilà, et puis si des gens sont d'accord de prendre un petit peu de temps avec moi pour coller les étiquettes dessus, il y en a 1000, alors donc on a de quoi distribuer, hein. Et voilà, on peut y aller. Alors j'attends et je suis à votre disposition pour tout renseignement. Merci du... ça fait pas un quart d'heure. Hein.
Mais je vais combler pour le quart d'heure. Non, je vais combler pour le quart d'heure. C'est bon. Ouais. Alors plus proche de nous, cette semaine, mercredi, le groupe CTT se retrouve comme chaque mercredi à 20h. Donc c'est un groupe de jeunes pour les 15-25 ans, entre 20h et 21h30. Vous avez la petite slide qui s'affiche. Vendredi, si je ne me trompe pas, vendredi, il y a KT. KT, donc c'est les jeunes de 11 à 15 ans. Donc vendredi à 17h ici à l'EM. Pour plus d'informations, vous pouvez venir vers Philippe. Ensuite, dimanche prochain, dimanche 19 mars. Alors c'est le conseil qui organise ce culte et on vous a préparé un petit menu très rafraîchissant. Donc à partir de 9h15, café croissant pour ceux qui veulent venir avec un accueil et puis un culte qui commencera à 10h avec différents plats à découvrir. Et puis un repas communautaire à 12h, donc repas communautaire où chacun amène et on partage ensemble ce repas. Et puis pour ceux qui se sont inscrits pour les 60 ans, Michaela a déjà organisé les petits groupes et l'après-midi, il y a déjà une première session pour organiser ces 60 ans. Et ensuite, pour le colloque. Donc le colloque, vous avez reçu via email les convocations. C'est vendredi 24 mars à 20h15 ici. Le colloque, c'est notre assemblée générale en tant qu'association, mais c'est le moment où on prend des décisions, et notamment sur les comptes 2022. Donc vous êtes invités à ce colloque. C'est aussi l'occasion de découvrir la vie de l'Église, de manière peut-être un petit peu plus formelle, mais qui permet aussi de prendre des décisions importantes pour notre Église. Et puis, finalement, notre Église vit effectivement que de vos dons et de vos offrandes. Nous vous remercions pour tout cet investissement. C'est ce qui nous permet de payer nos pasteurs, mais ça permet aussi de faire vivre ce bâtiment et les différentes activités que nous avons durant la semaine ou durant nos cultes. Et vous pouvez faire votre don via le petit panier qui est à la sortie ou via un versement bancaire ou avec Twint. Mais aussi, c'est l'occasion d'investir du temps et puis de rejoindre des groupes tout à fait qui peuvent paraître très simples comme ça en disant groupe nettoyage. Par exemple, on sait qu'il y a des besoins en groupe nettoyage, mais c'est important parce que, par exemple, le groupe nettoyage permet d'économiser entre 7 et 8 000 francs par année en ne passant pas par un service externe. Donc voilà, tout cet investissement, même la préparation du culte, on a parlé du nettoyage, mais il y a d'autres groupes où vous pouvez vous investir et vous êtes les bienvenus. Donc n'hésitez pas à revenir vers le conseil ou les pasteurs si vous avez envie de vous investir dans la vie de cette église. Merci.
Bonjour tout le monde. Donc, comme vous savez, je suis responsable pour la coordination de la louange. Et là, on a besoin aussi de monde. Donc, c'est vrai que vous voyez, on est quand même un effectif assez réduit. Dimanche passé, on a dû passer des vidéos parce qu'on n'avait pas assez de louangeurs. Donc, c'est vrai que si vous avez à cœur de servir par la musique, si vous avez un petit don et que vous voulez développer, n'hésitez pas. On a besoin de chanteurs, de musiciens, principalement de musiciens leaders comme guitare, ou pianiste. Alors n'hésitez pas si vous faites la guitare, du piano, si votre agenda est très très chargé, même une ou deux fois par année, ça peut nous rendre beaucoup de service. Alors n'hésitez pas si vous avez envie de rejoindre l'équipe de la louange en prenant contact avec moi. Merci.
Ça fait la transition parfaite parce qu'aujourd'hui justement on voulait parler de la louange et mettre un accent particulier en fait sur la louange, sur ce que ça veut dire pour nos vies et l'impact que ça peut avoir. Personnellement, j'ai grandi en faisant des camps chaque année, donc on commençait le camp, on nous donnait un petit livret avec les histoires dont on allait parler pendant la semaine et peut-être des questions qu'on allait aborder, et à la fin, un petit livret d'environ une dizaine, un petit peu moins, de chants. Et au début de la semaine, je connaissais en général trois des chants qu'il y avait dans le recueil, et à la fin de la semaine, je les connaissais tous, et je les connaissais tous par cœur. Et voilà, parce qu'on passait la semaine à les chanter, à toujours revenir dessus, à parler de ce qu'ils voulaient dire, et à les vivre vraiment. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est resté pendant longtemps après les camps. Encore maintenant, je me rappelle de certains des chants qu'on a chantés quand j'avais 10 ans ou moins. Et donc, voilà, pour moi, c'est ces chants-là que j'ai mémorisés, que j'ai chantés jour après jour, et qui sont revenus à des points clés dans ma vie aussi. Il y a des chants qui ont parlé à mon cœur, certains chants où je ne savais pas que j'avais besoin de vivre ça ou de dire ça à Dieu, et le chant est arrivé, voilà, soit pendant un culte, soit pendant un groupe de jeunes, et c'était exactement ce que j'avais besoin de dire à Dieu. Donc pour moi, voilà, la louange, ça a été quelque chose qui a eu un énorme impact. Et si je peux vous partager un truc, pendant un des camps, justement, on a eu une soirée où c'était un camp où on se déplaçait chaque fois. Donc le soir, on posait nos tentes dans un camping, dans un espace, et on dormait dans des tentes ensemble. Donc on était un petit groupe de 25. Et ce soir-là, on était à 2500 mètres d'altitude, dans un endroit totalement paumé en Suisse. Il y avait juste un petit chalet d'alpage. Et le fait est qu'il pleuvait, il faisait froid, on était tous serrés dans le petit chalet. Et on venait de finir de manger, on était posés, et on a juste chanté. Et vraiment, c'était un moment où on a senti la présence de Dieu, on a senti cet esprit d'équipe, en fait, on était tous ensemble. On aurait pu penser qu'on était mal à l'aise, qu'il faisait froid, qu'on allait dormir sous la pluie. Et plutôt que ça, on a remis nos cœurs à Dieu, on l'a remercié de cette expérience qu'on pouvait avoir ensemble. Et c'était vraiment un moment fort, et c'est quelque chose que, voilà, c'est une des soirées dont je me rappelle le mieux de tous mes camps, je pense. Donc voilà, la louange pour moi, ça a été ça. Et je pense qu'on a aussi cette joie de pouvoir venir ensemble. Dans chacun de nos parcours, on est toutes les générations qu'il y a ici, et tous les qu'on soit heureux, qu'on soit peut-être en train de traverser un moment plus difficile, on a l'opportunité de venir et de remettre nos cœurs à Dieu et d'être ensemble devant lui. Donc voilà. Donc je vais prier avant pour remettre ce moment. Seigneur, je te remercie pour l'appel que tu nous fais de venir devant toi, de ensemble te rendre gloire avec nos voix et se rappeler que c'est toi qui agis dans nos vies et c'est toi qui es présent. Et je te prie vraiment de nous aider aujourd'hui à remettre nos cœurs à toi et à te faire confiance dans toutes les situations. Amen.
À vous lever pour ce moment de louange. Déposer mes fardeaux.
de m'approcher de toi. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi.
Les enfants, je vous invite à rejoindre vos moniteurs. J'ai prié pour vous. Que Dieu vous bénisse. Oui, Seigneur, je te remets tes enfants, qu'ils puissent passer vraiment un bon moment en ta compagnie. Je te remets aussi les moniteurs. Donne-leur de l'énergie pour pouvoir vivre ce moment pleinement et que vraiment ils puissent ressentir ta présence. Amen.
Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore. L'aube d'un nouveau jour, pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Béni Dieu. Oh, oh, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, oh chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu. Sonnera, pourtant mon âme chantera tes louanges. des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, en gloire à son Saint nom. Ô chante comme jamais, ô mon âme, en gloire à son Saint nom. En gloire à son Saint nom.
Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, ce qu'on vient de chanter. Et c'est ainsi que chaque jour, mes parents, mes grands-parents m'ont appris à prier avant les repas. Et avant chaque repas, on chantait, on disait ce verset. J'avoue qu'étant enfant, ce verset ne voulait pas dire forcément grand-chose. Qu'est-ce que c'est une âme? Qu'est-ce que c'est bénir l'Éternel? Pas très clair. Mais bon, c'était un peu une formule pour pouvoir attaquer le repas. Mais en fait, ces paroles, elles ont transformé ma personnalité et ma vision de ce verset, il a fortement évolué au cours des années pour devenir aujourd'hui mon principal motif de louer Dieu et d'exprimer ma reconnaissance et ma louange à Dieu. Oui, cela fait de nombreuses années que la louange, c'est le pilier de ma foi. Ceux qui me connaissent le savent. Et c'est vrai que quand j'étais encore enfant, et puis qu'on a vu arriver Claude Heiniger et tous ses frères avec leur guitare pour chanter des chants de louange, waouh ! Moi qui venais d'un milieu protestant assez, un peu calviniste comme ça. Donc ça changeait de l'orgue et tout ça. Et j'avais les yeux qui brillaient dans ces guitares. Donc ça n'a pas tardé que j'apprenne cet instrument, en priorité dans le but de pouvoir servir le groupe de jeunes, l'Église et notre Dieu avant tout. Voilà, c'était encore le début de la louange à l'époque, comme on la connaît un peu aujourd'hui. Il y a eu des grands renouveaux, des grandes transformations, tout ça a évolué. Et j'ai pu prendre conscience que la louange signifiait vraiment. Pour moi, la louange, c'est vraiment l'expression de l'attachement au Seigneur, de mon attachement au Seigneur. C'est la seule réponse finalement que je peux adresser à Dieu. Parce que finalement Dieu, il n'a pas besoin de nous pour être Dieu. Dans le psaume 50, il est dit, si j'avais faim, te le dirais-je? L'univers est à moi et tout ce qu'il renferme. Vais-je manger des taureaux gras ou m'abreuver du sang des boucs? En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers le Dieu très haut les vœux que tu as faits. Celui qui offre sa reconnaissance, celui-là même me rend gloire. Il prend le chemin où je lui ferai voir le salut que Dieu donne. Oui, je crois que le psaume, c'est le livre par excellence qui nourrit ma louange. J'y découvre chaque jour de nouvelles merveilles. Les psaumes révèlent des situations quotidiennes tout à fait actuel, ça révèle de la reconnaissance, ça révèle des plaintes, des combats, des émerveillements, des miracles, des réconciliations, bref, tout ce que je pense chacun de nous est appelé à vivre au fil des années. Et pour moi, la louange, c'est venu le moyen essentiel et naturel de glorifier Dieu dans ma vie. C'est pour moi le moyen de répondre à ce commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et je crois qu'on peut louer Dieu en toutes circonstances. Et par Jésus-Christ, c'est encore plus facile de s'adresser à lui, à Dieu, car Jésus nous a ouvert le chemin qui nous mène vers le Père. Et c'est sans doute un petit peu abstrait et théorique, mais voilà, je vais vous citer deux exemples. De fois où j'ai pu louer Dieu dans la facilité, quand tout est facile, quand tout va bien. Ça, c'est le plus facile quand on a une réussite scolaire, quand on a sa petite amie qui accepte de devenir sa femme, quand on a bien mangé, quand on a de quoi se vêtir, dormir au chaud. C'est la louange de reconnaissance, c'est la louange la plus facile, mais peut-être aussi celles qu'on risque d'oublier parfois, parce qu'on nage dans le bonheur. Par exemple, l'été dernier, il faisait bien chaud, hein, l'été dernier. Ben, je suis parti faire un tour à pied dans la forêt, et à l'ombre, la chaleur, elle était bien plus supportable. Puis marcher dans la nature, c'est toujours une source de louange, intarissable. Puis après un moment, qu'est-ce que je vois à côté de moi? Des buissons avec des mûres. Alors j'en pique une, deux, trois, je goûte ça, c'était super délicieux. Puis finalement, il y en avait tellement de ces mûres que voilà, j'ai pu remplir un récipient que j'avais avec moi. En rentrant, on a fait un joli dessert avec ma femme. Et puis, comme il en restait encore, Barbara, elle a dit, « Oh ben, je vais faire des confitures. » Quoi, il y a eu de quoi faire un pot, mais quel pot. Et puis là, en plein hiver, on est en train de déguster cette confiture, et c'est juste merveilleux. Donc, en une seule sortie en forêt, j'ai eu quatre sujets de louange. C'est pas mal, quand même. Ouais. Et puis, il y a les louanges quand les jours sont noirs, quand les jours sont difficiles, lorsque la santé va mal, lorsqu'on s'est énervé grave contre un collègue, lorsqu'on est témoin d'injustice, qu'on a brûlé une tarte, que la voiture elle tombe en panne, lorsqu'un ami décède ou qu'il a attrapé le cancer. Et puis c'est pas dans ces moments-là que la première action c'est de sortir la guitare et puis waouh. Hein, on est plutôt sur des cris, des révoltes, des pleurs. En tout cas, moi, c'est comme ça. La louange, c'est pas une méthode couée. C'est pas une autosuggestion visant à appeler au bonheur. Non. Moi, je suis plutôt pragmatique, ceux qui me connaissent un peu. Mais j'aime prendre du temps un peu seul. Et puis, voilà, je me rends compte qu'en ouvrant mon cœur à Jésus, en lui disant que je veux lui faire confiance et que je veux croire qu'il maîtrise toute situation, même ses situations dans le noir, eh ben, il est là et tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, nous dit la parole. Eh bien donc là, une forme différente de louange peut sortir de ma bouche, une louange fragile, mais faite de confiance. Et Dieu, il honore cette louange et nous montre son amour encore plus concrètement. Encore vous dire combien la louange est pour moi bien plus un état d'esprit qu'un temps de chant. Pour moi, la louange ne se limite clairement pas à un moment de chant. Elle peut s'exprimer en toute situation. Et moi, je suis convaincu que la louange, elle peut s'exprimer sous toute forme de création artistique. Par exemple, ben là, on a des décorations contre les murs et je crois que c'est Mélanie qui a fait ses peintures et il faudrait que je lui demande, je ne sais pas si tu es là Mélanie, oui tu es là, coucou. J'espère que c'était une source de louange le jour où tu as réalisé ces peintures. Et puis ce qui est beau aussi, c'est que c'est aussi une source de louange pour nous qui les regardons, qui sommes contents d'être dans les locaux accueillants. Et puis voilà, donc pour moi, des tas de choses comme ça peuvent nous amener à exprimer notre louange. Donc pour moi la louange, elle peut s'exprimer... Oui, au travers de la musique, mais aussi du dessin, d'un poème, d'une création faite avec des morceaux de lierre trouvés dans la forêt, ou une simple prière dans sa chambre. Voilà, la louange, c'est l'expression de notre reconnaissance à Dieu. Reconnaissance que Dieu est Dieu. Donc aujourd'hui, ce psaume 103 qu'on a chanté juste avant, c'est un des psaumes qui est moteur dans ma vie. Hein. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit. terre se réjouit, il est paré d'éclat. La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, ô Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, ô Dieu, tu es grand. Besoin d'être aimé d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours. Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs, viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre, prends tout ce que je crois et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours. Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Que le monde voit, nous chantons pour la gloire du roi. ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance pour toujours. Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort.
Culte. Père Thomas, dans le culte, je remercie pour de ce qu'on peut vivre en communauté, Seigneur. Je t'aimerais te remettre tout spécialement Maïka et Philippe, surtout que tu puisses mettre tes mots dans la bouche de Philippe et que tu puisses disposer nos cœurs à entendre ton esprit ce matin, Seigneur. Amen.
Je vais lire le psaume 96. Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau, gens du monde entier. Chantez pour le Seigneur. Chantez en l'honneur du Seigneur, bénissez son nom. Jour après jour, annoncez qu'il est le Sauveur. Parlez de sa gloire à tous les êtres humains. Parmi tous les peuples, racontez ses merveilles. Le Seigneur est grand et mérite qu'on l'acclame. Il est plus redoutable que tous les dieux. Tous les dieux des autres peuples sont des faux dieux, alors que le Seigneur a fait les cieux. Il rayonne de grandeur et de majesté. Son sanctuaire est rempli de puissance et de splendeur. Famille de toute la terre, venez honorer le Seigneur en proclamant sa gloire et sa puissance. Venez proclamer sa gloire, entrez dans les cours de son temple en apportant vos dons. Courbez-vous jusqu'à terre devant le Seigneur quand il manifeste qu'il est Dieu. Tremblez devant lui, gens du monde entier. Dites à toute la terre, le Seigneur est roi. Le monde est donc ferme, il reste inébranlable. Il juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent, que la terre crie de joie, que la mer mugisse et tout ce qu'elle contient. Que la campagne soit en fête et tout ce qui s'y trouve. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant le Seigneur, car il vient pour rendre la justice sur la terre. Il jugera le monde avec justice, il sera un arbitre sûr pour les peuples.
Bonjour à chacun, à chacune. Ouais, bien. Merci, Sylvain. Ce qui m'a frappé en lisant ce psaume, en le méditant aussi sur invitation du CTT à réfléchir à la question de la louange, ce qui m'a frappé, c'est la façon avec laquelle ce psaume affirme avec une force assez incroyable la dimension universelle du Seigneur. Nous avons un grand Dieu qui mérite d'être loué, acclamé, écouté, honoré. Nous avons un grand Dieu. On trouve dans ce psaume un appel à la louange adressé à tous les peuples, aux gens du monde entier, sans distinction. Il ne s'agit pas d'une louange réservée au monde occidental. Gens du monde entier, louez ce grand Dieu. On y invite à proclamer la gloire de Dieu à tous les humains, sans distinction. Le quart d'heure, pour l'essentiel, c'est l'affaire d'une vie. La grâce de Dieu doit être proclamée à tous les humains, sans distinction. La création tout entière, et pas seulement les humains, est associé à la louange. J'y reviendrai. On dit même que le Seigneur, le Dieu dont parle ce psaume, est le seul vrai Dieu, que les autres sont des faux dieux ou des dieux de pacotille. Il n'y a qu'un seul Dieu, digne de notre adoration, de notre louange et de notre consécration. Il n'y a qu'un seul Dieu. Peut-on encore dire cela aujourd'hui sans être taxé d'intolérant ou de fanatique? Quand je dis « Dieu est grand et il n'y a qu'un seul Dieu et Jésus-Christ l'a manifesté », je suis conscient que d'autres fanatiques dans le monde vont utiliser ce même vocabulaire pour justifier des attentats, pour justifier les pires violences à l'égard des femmes. Peut-on dire aujourd'hui la dimension universelle du Seigneur sans être taxé d'intolérant ou de fanatique? Peut-on prétendre proclamer une bonne nouvelle à la fois unique et universelle sans être arrogant, sans être insensible à l'égard des autres? N'est-ce pas problématique de dire que le Dieu de la Bible, ce Dieu que nous louons, celui qui s'est révélé à Abraham et à sa descendance, le peuple d'Israël, celui qui s'est manifesté ultimement en Jésus-Christ, celui qui habite son Église, peut-on dire qu'il est le seul vrai Dieu? Peut-on le dire? Il faut dire que ces questions, elles prennent un relief particulier, avec d'un côté tous les excès des religions, y compris la religion chrétienne. Je fais une parenthèse. Dans quelques jours, dans un mois environ, on pourra visionner sur Arte un excellent documentaire en trois parties. J'ai eu le privilège de visionner un peu avant qu'il soit édité. Qui s'appelle « Les évangéliques à la conquête du monde ». Ce n'est pas un documentaire à charge. Nous pourrons le voir relativement serein. Mais nous y découvrirons, vous y découvrirez, les pires excès dont des évangéliques, pas tous les évangéliques, mais dont des évangéliques se sont rendus coupables. C'est compliqué de parler de la grandeur d'un Dieu universel quand on voit les excès de la religion chrétienne. Et c'est compliqué d'en parler aujourd'hui aussi avec tous les effets d'une laïcisation de la société et certains combats politiques qui accompagnent cette laïcisation de la société. Alors je soutiens l'idée qu'il n'est pas si facile de proclamer aujourd'hui que Dieu est le seul vrai Dieu. Et pourtant, ce psaume et toute la Bible nous invitent non seulement à le dire, mais encore à le chanter et surtout à le vivre. Verset 4 de notre psaume. Le Seigneur est grand et mérite qu'on l'acclame. Il est plus redoutable que tous les dieux. Le Seigneur est grand. Il n'y a qu'un seul Dieu. L'affirmation monothéiste est forcément universelle. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et s'il n'y a qu'un seul Dieu, alors il est Dieu pour tout le monde. Si nous sommes monothéistes, ce que je crois que nous sommes, puisque nous disons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alors il n'y a qu'un seul Dieu pour tout le monde. Et on peut même aller un peu plus loin. Un Dieu qui ne serait pas unique, pourrait-il encore être Dieu? Par définition, Dieu n'est-il pas l'être suprême, absolu, radicalement unique. Or, s'il y en a d'autres que lui, il n'est plus absolu, il est relatif. Ce n'est plus Dieu, c'est autre chose. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, principe supérieur. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus de lui, s'il n'y a pas qu'un seul Dieu unique ? Et je sais qu'aujourd'hui, il est plus que jamais difficile d'entendre des affirmations absolues. Je le sais. Chacun a sa vérité. Chacun se construit sa spiritualité et donc son Dieu. Dans ce contexte, il est difficile de faire place à un Dieu unique et absolu. Mais soit il y a un seul Dieu, soit il n'y a pas de Dieu du tout. Et nous nous trompons de crémerie. Il n'y a pas d'entre-deux possibles. La réponse est forcément un absolu dans un sens ou dans l'autre, et c'est à vous de choisir. L'auteur de notre psaume, il a choisi. Il dit, il y a un seul Dieu. Tout vient de lui et tout dépend de lui. Et en plus, ce Dieu-là nous aime. Évidemment, c'est ce qu'on appelle ici une affirmation de foi. Mais pourquoi serait-elle plus folle que d'affirmer qu'il n'y a pas de Dieu ? Ce qui est aussi une affirmation de foi. Les athées, les agnostiques sont pleins de foi. En quoi ? Ça, c'est à eux de le déterminer. Mais c'est une affirmation de foi que de dire qu'il n'y a pas de Dieu, comme c'est une affirmation de foi de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous croyons tous et toutes en quelque chose. Le psaume focalise son regard sur l'œuvre du Dieu créateur. Ses œuvres, ce sont celles qu'on voit quand on contemple la nature. Si belle, si diversifiée, si impressionnante, si délicate, quelques murs sur une tare. Dans un pot de confiture. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, de l'espace au fond sous-marin, à tel point, dit notre psalmiste, que la nature elle-même participe à la louange universelle. Que les cieux se réjouissent, que la terre crie de joie, que la mer mugisse tout ce qu'elle contient, que la campagne soit en fête et tout ce qui s'y trouve, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant le Seigneur. La nature elle-même participe à la louange universelle. Elle n'a pas attendu la prise de conscience nécessaire de l'urgence climatique pour le faire. C'est nous qui sommes en retard. La participation de la nature à la louange universelle devrait aussi nous rendre attentifs à son importance, à sa nécessaire protection. Déjà aujourd'hui, la nature participe à la louange universelle de Dieu. La création célèbre son créateur. Les créatures célèbrent leur créateur. Est-ce vraiment plus absurde de dire que toute la création est l'œuvre de Dieu ? Est-ce plus absurde de dire ça que de dire que ce n'est que l'effet du hasard, des collisions moléculaires ou des coïncidences heureuses ? Avec l'auteur du psaume, je préfère choisir qu'il y a bien un Dieu créateur de toutes choses et qu'il se soucie de nous. Si Dieu n'est pas unique et absolu, mes amis, alors il n'y a aucune assurance et aucune espérance possible. Si Dieu n'est pas unique et absolu, tout n'est qu'hypothétique et absurde. Car si Dieu n'est pas unique et absolu, qu'est-ce qu'il nous garantirait ? Qu'il tiendra ses promesses. Alors, avant de conclure, j'aimerais juste préciser un élément. Le problème, ce n'est pas tellement Dieu. Le problème, c'est plutôt les croyants. Le problème, ce n'est pas un Dieu unique. C'est ce que les croyants font de leur monothéisme. C'est ce que les croyants font de leur foi. Dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui, la foi monothéiste a été utilisée comme un prétexte à la haine et à la violence, à la ségrégation, aux abus de toutes sortes, au patriarcat, à la chosification, parfois jusqu'à la barbarie la plus abjecte. C'est ça le problème. Ce n'est pas Dieu le problème. C'est ce que nous en faisons. S'il faut affirmer l'absolu de Dieu, il faut en même temps être conscient de nos limites dans la compréhension de Dieu. Il ne faut pas confondre ici Dieu et notre perception de Dieu. Dieu est plus grand que notre théologie. Dieu est plus grand que nos confessions de foi. Dieu est plus grand que les chants que nous avons chantés, aussi beaux soient-ils. Dieu est même plus grand que sa parole, aussi exceptionnelle soit-elle. La théologie, que j'aime, c'est un discours sur Dieu. C'est ce que nous pensons, c'est ce que nous disons de lui. Et si Dieu pouvait être enfermé dans une théologie, si Dieu pouvait être cerné ou résumé par un discours, eh bien, il ne serait plus Dieu. Parce que Dieu est plus grand que nos confessions de foi, que nos chants, que nos catéchismes, que nos impressions à son sujet. Dieu est plus grand. Dieu est grand. C'est terrible quand on limite Dieu aux bornes de notre intelligence. C'est terrible quand on limite Dieu aux bornes de notre foi ou de notre théologie, car nos théologies peuvent devenir des idoles. Notre compréhension de l'évangélisme, de notre histoire, de notre identité, ça peut devenir une idole qui prend la place de Dieu. Et la théologie peut même devenir un mur plutôt qu'un pont. C'est le cas quand notre conception de Dieu est limitée à notre connaissance. Elle devient une idole, une image figée de Dieu, alors que Dieu est un Dieu de mouvement et de proximité. Le Dieu de la Bible, il se révèle avant tout au moyen d'un récit. Un récit, ça bouge. L'histoire de la révélation de Dieu, c'est un récit, c'est une histoire, c'est un mouvement. Il se révèle par ses œuvres dans la nature qu'il a créée et qu'il maintient. Il se révèle dans l'histoire d'un peuple issu d'un homme, Abraham. Il se révèle de manière ultime en Jésus-Christ, le Fils de Dieu devenu homme. Il rend ses récits vivants pour nous par l'œuvre de son Esprit qui les applique en nos cœurs. On ne peut pas réduire notre foi à notre confession de foi, même si, bien sûr que c'est important de réfléchir sa foi et de l'approfondir. Je vais conclure dans quelques instants. J'aimerais simplement relever encore qu'il y a un élan, un souffle dans ce psaume. Ce psaume qui nous invite à considérer notre foi, à nous demander si nous n'avons pas tendance à la limiter, à la relativiser, à l'enfermer dans des certitudes ou des habitudes. Je crois que nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de plus dans notre foi. Et j'en cite trois avant de conclure. Déjà, nous avons besoin d'un peu plus d'enthousiasme. Quel grand Dieu nous avons. Quel grand Dieu nous avons. À force de routine dans la foi, avec une vie chrétienne bien rangée, on l'oublierait presque, n'est-ce pas? L'enthousiasme de ce psaume devrait venir nous rejoindre. Alors vous me direz qu'on ne peut pas décider d'être enthousiaste. Ce n'est pas faux. Mais on peut quand même mettre toutes les chances de notre côté pour le devenir un peu plus. Et pour cela, je vous suggère qu'il n'y a rien de mieux que la contemplation. Est-ce que nous prenons encore le temps de la contemplation dans notre vie ? La contemplation de Dieu dans ses œuvres, la contemplation de Dieu dans le monde, dans notre vie, dans la vie de celles et ceux qui nous entourent. La contemplation. Est-ce que nous prenons le temps de chercher à voir Dieu, à discerner sa main ? Est-ce que nous lui demandons encore d'ouvrir nos yeux pour le voir, d'ouvrir nos cœurs pour le recevoir ? Est-ce qu'on a faim et soif de Dieu ? Est-ce que vous avez faim de Dieu ? Ou est-ce que tout ce qui vous importe, tout ce qui nous importe, je me mets dedans, hein, c'est d'avoir assez de sous à la fin du mois ? Pas trop de factures médicales, un projet de vacances, un bon projet de retraite, un anniversaire d'église. Est-ce que c'est ça l'horizon ? Ou est-ce que nous avons faim et soif de Dieu ? Pas d'un Dieu de théologie, mais d'un Dieu de relation. Un peu plus d'enthousiasme. Un peu plus d'humilité aussi. Parce que nous sommes si petits devant ce Dieu si grand. Et là aussi, l'expérience de la vie chrétienne peut nous jouer des tours, avec le risque à la longue de se croire du côté de ceux qui savent, du côté de ceux qui ont compris, de ceux qui font tout juste, avec la tentation de se considérer comme quelqu'un qui finalement n'a plus grand-chose à apprendre sur la foi, sur la vie et même sur Dieu. Revenu de tout, en somme. C'est bon, moi je sais. Jésus n'a pas appelé des sachants. Il n'a pas appelé des savants. Il a appelé des disciples qui ont toujours besoin d'apprendre. Et j'aime tellement cette prière de Jésus dans l'évangile de Matthieu où il s'exclame « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. » Matthieu 11, 25. Le royaume de Dieu, il n'est pas pour les sachants, il est pour celles et ceux qui sont comme des petits enfants. Si nous voulons que notre foi grandisse, si nous voulons qu'elle s'épanouisse, il faut rester du côté des petits et des petites qui cherchent à apprendre. Il faut laisser de la place à la croissance, quelle que soit l'étape présente de notre vie, rien n'est figé. Un peu plus d'humilité, bon sang. Un peu plus d'humilité. Et un peu plus de curiosité. J'en connais forcément trop peu sur ce Dieu unique et absolu. Or, j'ai l'impression qu'on se contente d'un Dieu trop petit. Un Dieu qui n'est pas à l'échelle de ce Dieu unique et universel décrit dans notre psaume. On passe à côté de tant de choses, simplement par manque de curiosité. On préfère rester en terrain connu, entre nous, en fréquentant des gens comme nous, qui pensent comme nous, qui prient comme nous, qui parlent comme nous. Je suis persuadé que le manque de curiosité appauvrit notre foi. Croyez-vous que ce Dieu unique et universel ne puisse pas se révéler d'une manière ou d'une autre dans d'autres cultures, dans d'autres formes, et que nous puissions en tirer un bénéfice pour nous ? Bien sûr qu'on reviendra toujours au Christ qui est pour nous la révélation ultime de Dieu, mais pourquoi ne pas sortir aussi un peu des sentiers battus ? Et d'oser un peu de curiosité. Je conclus. Pour moi, l'enthousiasme, l'humilité, la curiosité, Ça ressemble à ces qualités qu'on trouve chez les enfants. J'aimerais des fois retrouver cet âge-là où tout était objet de curiosité. J'aimerais que nous nous souvenions que l'enfance, que la jeunesse, avec tous ses possibles, c'est de ces moments que le Seigneur nous donne comme marqueur pour nous encourager à une foi un peu plus ouverte et un peu plus simple. Nous sommes invités à être comme eux si on veut entrer dans le royaume de Dieu. Comme eux. L'enthousiasme, l'humilité, la curiosité. En fonction de votre personnalité, de votre cheminement personnel, ça pourrait être plutôt l'un que l'autre. Mais il me semble que nous avons tous et toutes besoin d'un peu des trois. L'enthousiasme, l'humilité, la curiosité. Et si on veut approfondir et vivre notre foi en ce Dieu si grand, ce Dieu unique et universel, digne de notre louange et de notre adoration, alors retrouvons un peu ces trois valeurs, enthousiasme, humilité, curiosité. Amen.
Souffle nouveau. dernier chant, je te donne tout.
Je trouve que nous chantons un texte particulièrement fort. On peut le dire à très haute voix, on peut le murmurer, on peut hésiter à le dire, je te donne tout. Ça me rappelle l'ambivalence de la louange que David a mis en exergue dans son témoignage. Il y a la louange dans la victoire, il y a la louange dans la difficulté, il y a la louange qui cherche à donner sa vie à Dieu. Et j'aimerais simplement vous dire que si vous souhaitez aller un pas plus loin que simplement les paroles de ce chant-là, si vous avez envie de poser une pierre, si vous avez envie de prier avec quelqu'un, Célina, moi, les membres du conseil, l'équipe de ce matin, elle est à disposition. Si vous avez juste envie de ne pas repartir à la maison exactement comme vous êtes arrivé, sentez-vous la liberté de venir nous trouver. On priera avec vous, on priera pour vous, pas parce qu'on est meilleur, on est dans le même train, mais parce qu'on a besoin aussi, des fois, juste de poser quelque chose devant Dieu. Je te donne tout.
Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il l'a été avec nos ancêtres, qu'il ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies, et que nous respections ses commandements. 1 Roi 8, 57 à 58. Alors avec ça, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.
Salut.
Salut. Ouais, moi ça me parle, c'est-à-dire.